Bonjour à tous, c'est le mug numéro 161 et nous sommes le mercredi 21 mai. J'espère que vous avez la forme, désolée pour le petit retour de son, j'espère que vous ne l'avez pas trop eu, mais je vais tout checker normalement pour mon retour chez moi avec le matériel, mais je n'avais pas vérifié le volume sonore de mon ordinateur, donc j'espère que ça se passe bien. Dites-moi aussi pour le son du micro, si c'est bon, normalement je l'ai réglé, mais dites-moi si le son est ok, trop fort, pas assez fort, etc. Pour le lag, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Il y a eu des bugs au générique. Ouais, j'ai mon ordinateur qui rame un peu. J'ai essayé de chercher un petit peu ce matin, mais j'ai pas trouvé de solution. Tant que le son suit, on va se dire que l'image n'est pas non plus l'essentiel dans l'émission. Donc voilà, Laetitia, tu me dis que le son est ok. Merci beaucoup de ta confirmation. Voilà, donc j'ai changé de décor. On va varier de nouveau. vous allez pouvoir alterner entre le décor de Guillaume, de Jérôme, de moi. C'est le déconfinement de l'ordinateur, il a du mal à se réveiller. Bah, m'en parle pas, je l'ai pas allumé depuis plus de 2 mois maintenant, donc j'ai dû faire toutes les mises à jour hier soir, de tous les logiciels, de l'ordinateur en lui-même, etc. Et c'est vrai que quand je l'ai rallumé, j'ai les ventilateurs qui tournent bien là, on dirait qu'il va décoller. J'ai pas trouvé encore la source du problème. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Vous voyez, il fait beau, on a de la lumière. Et je vous propose sans plus tarder de commencer avec les news. Alors ce matin, de quoi va-t-on parler ? On va parler, on a des choses assez variées, donc c'est cool, il y avait pas mal d'actualités finalement, parce que en milieu de journée, j'étais un petit peu inquiète, finalement le soir, il y a tout qui s'est réveillé, et is it a bird, is it a plane ? No, that's Marion Computer. c'est un peu ça, Matt. En général, le ventilo qui tourne à fond à température est trop élevé. En effet, le tutoriel, ça je le sais, mais que les ventilateurs tournent à fond dès l'allumage de l'ordinateur, c'est quand même étonnant. Voilà, c'est pas tout à fait normal. Et voilà. Mais bon, écoutez, je prendrai le temps d'investiguer un peu plus tard. Si ça permet quand même de faire le live, c'est l'essentiel. Alors, on va commencer quand même avec un peu la news du jour. Alors, c'est pas une news, c'est une rumeur. Donc, vous connaissez la tradition. On prend des pincettes et on verra dans le futur si les rumeurs s'avèrent vraies. On pourra en rediscuter le moment venu. Ce sera justement assez intéressant. Mais on a des petits news sur, tadadam, vous l'avez vu dans le nom de l'émission, les lunettes de réalité augmentée de chez Apple, qui ne sont évidemment pas encore sorties, mais dont ça fait quelques temps qu'on entend parler et dont on spécule un petit peu. Ben, on va continuer à spéculer grâce tout simplement au YouTuber John Prosser, qui a publié une vidéo. Alors on le connaît parce qu'il a déjà dévoilé des choses qui se sont avérées vraies, donc a priori c'est un petit peu plus rassurant et ça donne envie de croire un petit peu aux rumeurs qu'il partage, mais encore une fois ça reste des rumeurs et rien n'est confirmé, on va dire ça comme ça, mais voilà, donc le YouTuber qui est donc la figure de la chaîne YouTube Front Page Tech a expliqué dans une vidéo ce qu'il savait jusqu'ici des Apple Glass, parce qu'il avait pu voir en tout cas un prototype. Alors il ne le montre pas, le prototype, il n'a pas eu l'autorisation encore, donc il décrit un petit peu ce qu'il a vu et ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, il va annoncer des petites choses. Ah, donc a priori, Pas de grosse surprise, mais il confirme le nom de Apple Glass pour les lunettes de réalité augmentée. A priori, comme la première génération d'Apple Watch, les lunettes de réalité augmentée dépendraient de l'iPhone, ne fonctionneraient pas de manière indépendante. Donc là aussi, je trouve que c'est assez logique, pas super étonnant, mais intéressant. La volonté d'Apple concernant ces lunettes serait vraiment de faire des lunettes qui ressemblent à n'importe quel type de lunettes qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Ils ne veulent pas mettre en avant la technologie. Ça, c'est évidemment un des atouts d'Apple, c'est de rendre la technologie accessible à tous et de ne pas faire de la promotion de la technologie, mais plutôt promouvoir le service et la valeur que la technologie va apporter à l'utilisateur. Donc ça, c'est complètement aligné avec la marque Apple et ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Donc en effet, les lunettes en elles-mêmes ne vont pas ressembler à un objet tech. Prenez par exemple les AirPods, ça ressemble vraiment à un objet du quotidien. Voilà, c'est pas, ça n'éclabousse pas de technologie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne évidemment et que c'est adopté par le plus grand nombre. Et c'est ce qu'avaient raté évidemment les Google Glass qui étaient un peu trop techies. Il y a vraiment deux perspectives de sociétés qui ont potentiellement impacté le succès ou l'échec aussi d'un produit. Même si Google Glass, évidemment, ça n'a pas été le seul problème qu'ils ont rencontré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Le prototype qu'il a pu observer était jusqu'ici en plastique au niveau de l'ossature, etc. Mais encore une fois, c'était un prototype. Donc il dit qu'il y a de fortes chances, évidemment, que le matériau qui encadre les verres soit revu avec un matériau de meilleure facture. Donc on verra. Mais en tout cas, le prototype qu'il a vu, lui, était en plastique. Elles vont embarquer a priori un capteur lidar. Ça, c'est une des rumeurs qu'on avait vues, puisqu'avec le nouvel iPad Pro qui embarque le capteur lidar, c'était justement pour préparer le terrain. Et ben voilà, a priori, ça se confirmerait, mais encore une fois, c'est une rumeur. On aurait sur la tempe droite, pardon, le placement d'un capteur lidar pour comprendre et analyser les éléments qui l'entourent, évidemment, pour la réalité augmentée. Et elle devrait également être exploitée sur les prochains iPhone 12 Pro. Les Apple Glass se rechargeraient également sans fil. Il faudrait les mettre à l'envers et poser sur un petit support qui est pour l'instant lui aussi en plastique d'après ce qui a été partagé. Voilà, vous pourrez interagir avec les lunettes en faisant des gestes devant aussi. Il y aurait de la reconnaissance en manipulant des choses devant. Donc ça, c'est intéressant. Et il y aurait un écran par verre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui vont regarder les lunettes ne pourront pas voir s'il y a quelque chose d'affiché ou pas. Les écrans seront uniquement visibles pour le porteur. Donc ça serait complètement transparent. Et autre information, a priori, Apple aurait des difficultés pour que les écrans fonctionnent ou soient visibles sur des verres teintés. Donc pas de lunettes de soleil pour la première génération d'Apple Glass, ça sera des verres normaux, mais attention, les verres pourront aussi avoir des corrections si vous êtes si vous portez des lunettes. Moi, je porte des lunettes par exemple, et ben pas besoin d'avoir 36 000 paires de lunettes, vous pourrez profiter à la fois de la technologie Apple avec des verres adaptés à votre vue. Donc c'est vraiment fait pour s'intégrer à vos lunettes du quotidien. Donc ça, c'est assez intéressant, ils ont vraiment bien pensé à ça. Pour les prix, je crois que je l'ai vu dans la chatroom, vous l'avez partagé déjà. On table sur du 499 $, ce qui fait environ 456 €, attention hors taxes, hein, puisque ce sont des prix américains. Et à ça s'ajoute évidemment le prix de vos verres correcteurs, hein. Donc attention, c'est pas donné. Voilà. Alors pour la présentation, quand est-ce que les lunettes seraient présentées et quand est-ce qu'elles seraient disponibles? On a des choses assez différentes ici. Donc a priori, Apple essaierait, voudrait présenter les Apple Glass comme un one more thing à la keynote de présentation des iPhones. Donc naturellement, qui est prévu en septembre. Dans le contexte actuel, la rumeur serait que Apple décalerait l'événement à octobre. Et encore une fois, il ferait le lancement de ses lunettes, cette annonce, cette présentation, si la presse peut venir, peut y assister. Donc c'est pour ça qu'ils essayent aussi de décaler. Donc potentiellement, ça pourrait être décalé, cette présentation, jusqu'à mars 2021, en fonction du contexte de l'autorisation ou pas d'avoir la presse qui peut venir à l'événement, etc. Donc on a a priori cette présentation qui était normalement prévue en septembre, qui pourrait être repoussée à octobre, et en fonction du contexte sanitaire, pourrait être encore repoussée à mars 2021. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. On n'a pas encore plus d'informations sur quand est-ce que cette présentation pourrait arriver. En tout cas, ça sera conjugué en One More Thing avec la présentation des nouveaux iPhone 12. Mais alors, quand est-ce que ces lunettes seraient disponibles? Parce que la présentation ne veut pas dire que les lunettes sont disponibles immédiatement. Non, a priori, les lunettes seraient disponibles au plus tôt au quatrième trimestre 2021 ou même 2022. Donc, il va falloir être patient. Ça va pas être pour tout de suite, mais voilà, c'est assez intéressant. J'avoue que je trépine d'impatience de voir un petit peu ce qu'ils vont nous présenter, comment ils vont aussi nous le présenter, parce que c'est clé pour comprendre la valeur et exciter les gens, créer de l'attente et engager les gens sur ce produit, potentiellement développer des choses pour ce produit. C'est pour ça que ça, il y a un intérêt aussi à le présenter peut-être avant, même si là, ça reste une présentation grand public, puisque c'est une annonce de produit et pas la WWDC où ils auraient pu s'adresser au public de développeurs. Donc, à voir ce qui se passera. Donc, pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. On me dit l'annonce à la disponibilité ne sera jamais faite en septembre. Ça polluerait les annonces des iPhones. Ça serait pas la première fois, LG, qui font ce genre d'annonce, hein, l'Apple Watch a été faite comme ça, voilà, donc je suis pas tout à fait d'accord avec ton information. Justement, ils profiteraient du tremplin que représentent les iPhones et ont toujours représenté pour pouvoir présenter le One More Thing. Je pense justement que c'est plus pertinent. Mais là, on ne fait que spéculer. T'as peut-être raison, j'ai peut-être raison, j'en sais rien. On verra, on verra évidemment dans le futur comment ça sera. LG nous dit, ça sera en janvier avec dispo en avril. Mais dis donc, tu tiens tes informations d'où? Partage tes sources. Voilà, écoute, on a des sources différentes. Moi, en tout cas, je vous partage les informations que John Prosser nous a partagées, a communiquées dans sa vidéo. Voilà, du coup, pour Apple Glass, pour ceux qui se demandaient où on en était, vous avez quelques petites rumeurs à vous mettre sous la dent, tout simplement. On continue! Parce qu'il n'y a pas que des news du côté d'Apple. Hier, c'était aussi le début de la Microsoft Build, qui se déroule évidemment à distance, vu le contexte actuel. Donc Microsoft Build, c'est l'événement dédié aux développeurs de Microsoft. Ils vont annoncer plein de nouveautés logicielles, etc. Donc c'était... alors, je ne l'ai pas vu, j'allais dire c'était intéressant, mais... Je l'ai pas regardé, j'ai juste regardé, enfin lu des articles et je vous ai sélectionné deux informations qui m'ont paru assez intéressantes, notamment sur Microsoft qui dévoile la fonctionnalité de Fluid, donc ça s'appelle Lego Blocks Fluid. Microsoft qui fait toujours dans la simplicité, hein, pour présenter une nouvelle fonctionnalité, on le connaît bien, donc ça se retient bien, hein, Lego Blocks Fluid Components, parce que Blocks et Components, c'est pas du tout redondant. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant comment ils peuvent présenter de manière compliquée une nouvelle fonctionnalité, c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, ça n'en reste pas, enfin ça reste quand même intéressant ce dont ils ont parlé. Et en fait, ça serait une nouvelle, un nouveau type de document. Donc en fait, c'est pas vraiment un nouveau type de document, mais c'est un espèce de module qui serait collaboratif. Donc vous savez que Office se bat aussi contre des concurrents comme la suite Google, Google Docs, etc., qui met en avant la collaboration dans le cloud en synchronisé immédiate, etc. Et beaucoup, beaucoup de compétiteurs ont mis cette collaboration sur le devant de la scène. C'est vrai que c'est de plus en plus adopté, ça devient de plus en plus un standard. Moi, je sais que je travaille avec la suite Google Doc et je me vois pas revenir à quelque chose de différent, en fait. Parce que en plus, j'ai cette manière maintenant de travailler de manière collaborative en direct sur les Google Docs, mais également avec mon logiciel de design, de conception Figma, puisqu'on a changé en début d'année, on est passé de Sketch à Figma, et Figma met en avant aussi la collaboration en temps réel. Et ça simplifie pas mal les échanges quand vous avez des grandes équipes, etc. C'est assez pratique. Et du coup, bah, Microsoft, justement, dans cette mouvance, va proposer ces espèces de nouveaux blocs. Alors, je vais vous montrer peut-être voilà, une petite capture. Évidemment, je ne peux pas zoomer parce que c'est Flipboard. Donc, je vais vous l'ouvrir dans Safari. Comme ça, je vais pouvoir zoomer sur l'écran. Alors, excusez-moi, ça charge. Bah. Le fail en live. J'ai une connexion internet ou j'ai pas de connexion internet là? Non? Ça veut pas. Allez, aide-moi un peu là. Ok, bon. Eh ben, fail. Je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, on va abandonner. Vous allez le voir en petit. Je vais pas pouvoir le faire. Je vais vous montrer. Voilà, celui-là. Celui-là, je peux vous le montrer. Donc voilà, là vous voyez un petit gif animé. Ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un module là avec le contour bleu quand il y a le petit curseur qui va dessus. Vous voyez un module, vous voyez même des petites photos de profil sur le côté. Donc là on retrouve vraiment le même principe que Google Doc où vous voyez les collaborateurs qui sont sur le module en même temps que vous. Et vous pouvez voir des couleurs qui sont associées avec les petites initiales et voir qui modifie. Avec ce petit curseur qui modifie là, qui édite, vous voyez les initiales, c'est quoi? BP et KM. Donc l'un est en violet, l'autre est en vert et correspondent évidemment aux petites vignettes. Et vous voyez qui, en temps réel, modifie le module dynamique. Donc en effet, c'est pas vraiment un nouveau type de document, parce qu'en fait, ce type de module, son vrai intérêt, c'est qu'il peut être intégré dans toute la suite Office ou Microsoft Outlook, je confonds les noms, je sais plus qui est quoi, mais en gros vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type de document, vous allez pouvoir l'utiliser dans les mails, etc. Et ça sera toujours à jour, puisqu'en fait c'est quelque chose de collaboratif qui peut être mis à jour par n'importe qui, enfin en tout cas vous donnerez les accès en fonction, hein, mais voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Je reviens sur moi. Et donc, du coup, ils rendent ces espèces de petits modules open source également. Donc, ça, c'est encore plus intéressant. Voilà, donc le framework qu'ils ont appelé Fluid, du coup, pour cette notion de collaboration, va être open source, donc tout le monde va pouvoir se l'approprier, ça ne va pas être propriétaire Microsoft et le code source sera, enfin en tout cas en open source, les gens vont pouvoir s'approprier ce framework, le faire évoluer, etc. Et donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez aligné avec la nouvelle démarche de Microsoft sur l'open source. Olivier, tu me dis que c'est pas ça qui est nouveau. Ah, mais j'ai peut-être mal compris. N'hésite pas à partager du coup ce qui est nouveau si j'ai raté quelque chose de l'article. Voilà, non, non, ben, c'est ce type de contenu, donc les tableaux, les graphes, les listes qu'on peut trouver justement dans ces documents Office qui vont devenir entre guillemets vivant, c'est-à-dire collaboratif avec ces petits modules et qui vont pouvoir vivre en dehors des documents traditionnels et un petit peu être plus indépendant que ces fonctionnalités de save, de sauvegarder, d'enregistrer, etc., qu'on pouvait avoir sur le fonctionnement classique. Donc là, on a vraiment quelque chose, à mon avis, qui était assez attendu des collaborateurs. Office 365 le permet déjà sous Teams, peut-être pas sur tous les documents. Ok. Office est déjà full collaboratif, le truc nouveau, c'est les modules eux-mêmes. Oui, Olivier, c'est ce que je disais, non? Il me semble que je parle des modules depuis tout à l'heure. Mais ok. Après, en effet, je suis pas une experte du tout, par contre, de Office, donc je sais pas du tout, en effet, si c'était collaboratif, etc. Tu me dis que c'est l'est déjà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as des modules qui sont indépendants, qui seront toujours à jour. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous pouvez les mettre dans les documents, mais aussi dans les applications. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça a l'air assez intéressant comme initiative. Donc là, ce framework fluide qui vous permet donc d'avoir ces... d'ailleurs, on peut le voir là, l'espèce de visualisation ici, je vais vous le montrer. Hop, vous pouvez voir que ces espèces de modules vont pouvoir vivre, pardon, de manière autonome dans tout type de documents Microsoft. Ici. Avec cette petite démo. En tout cas, voilà, la preview va être accessible dès cette semaine pour ce nouveau framework fluide. Il y a eu des exemples qui avaient déjà été montrés l'année dernière, mais voilà, vous allez pouvoir créer des documents dynamiques où plusieurs personnes peuvent mettre à jour en temps réel ces modules en utilisant ces composants fluide, qui donc regroupe, je vous avais dit un petit peu tout à l'heure, donc des tableaux, des agendas également, des listes de tâches directement dans Outlook ou enfin dans Outlook sur le web. Voilà, et après je crois que je vous ai déjà tout dit. Hop, hop, hop. Voilà, c'est open source en effet, donc très aligné avec la démarche actuelle de Microsoft. Voilà. Voilà, donc le but, il nous dit, c'est à terme de construire ces composants qui utilisent le Fluid Framework dans toutes les applications Office du type Excel, Word et PowerPoint. Donc que ça soit vraiment agnostique du logiciel que vous utilisez, que vous puissiez les utiliser partout. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Voilà pour la news. Des modules web directement dans les documents. What could go wrong? Voilà, ben, en tout cas, n'hésitez pas, ça sera intéressant d'avoir votre retour. On sent qu'il y a une vraie intégration de différents services chez Microsoft. C'est intéressant de voir cette cohérence se mettre en place. Je pense que c'était quelque chose qu'on reprochait depuis longtemps à Microsoft et on voit qu'ils font pas mal d'efforts là-dessus. Donc, intéressant. Non, Matt, c'est pas du tout la news Linux Microsoft. Je parlais plutôt du Fluid Framework. On enchaîne avec une autre news pour Microsoft qui a été donc présentée aussi à la Build qui se déroule jusqu'à jeudi. Hein, ça, c'était de mardi à jeudi. C'est notamment le push de Microsoft Cloud, le service cloud de Microsoft, sur des domaines professionnels spécifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient donc un service cloud disponible aux entreprises et maintenant, ils sont en train de carrément, comment dire, customiser ou adapter leur offre cloud et de services qui peuvent être supportés par ce service cloud au domaine professionnel. Donc ça, c'est super intéressant. Et notamment, là, ils ont présenté une offre cloud adaptée à la santé. Donc ça, c'est assez intéressant puisque du coup, il y a évidemment des besoins spécifiques comme pouvoir... Alors attendez que je vous retrouve un petit peu les use cases, mais pouvoir... travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé, pouvoir un des problèmes dans ce secteur-là aussi, c'est pouvoir suivre le patient après donc le aftercare, après le soin, pouvoir faire du suivi des patients. Il y a également aussi tout un tas de réglementations sur la gestion des données de santé qui sont évidemment les données les plus sensibles. Un des types de données les plus sensibles qu'on peut trouver. Donc évidemment, en termes de sécurité, de sauvegarde des données, etc., il faut respecter la réglementation en vigueur. Alors attention, là, l'offre cloud qui a été présentée, ça va s'adresser au marché américain. Donc on ne parle pas aujourd'hui du respect de la régulation européenne, par exemple. Ça viendra sûrement dans le futur, s'ils souhaitent mettre à disposition cette espèce d'offre cloud adaptée en dehors des États-Unis. Mais en tout cas, voilà, on a donc un objectif d'améliorer l'aspect opérationnel, des mesures de sécurité strictes, engager les patients, faciliter la collaboration, etc. On a pas mal de choses comme ça. Et notamment, on va retrouver aussi des notions de télémédecine, donc la vidéo, un échange vidéo entre le patient et le professionnel de santé. On va avoir également des bots de santé qui ont notamment servi. Il y a eu notamment 1500 instances du bot de Microsoft qui ont été utilisées pour accompagner lors de la crise coronavirus, sur lesquelles les applications ou d'autres bots ont pu se baser depuis mars 2020. Voilà, ça permet, pourquoi ces bots sont importants ? Bah, tout simplement, ça permet d'orienter, de faire du triage de patients en fonction des symptômes, de la situation et de l'âge, du profil en tout cas de la personne, de pouvoir orienter en fonction de l'aspect critique de la personne, orienter vers le service adéquat. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre ensuite aux hotlines humaines, entre guillemets, de pouvoir... prioriser les patients. Hein. C'est vraiment comme aux urgences, vous allez avoir une liste de critères et vous allez pouvoir orienter pour fournir la meilleure qualité de soins possible en fonction de la charge de patients que vous avez qui arrive. Donc c'est là où il y a un vrai intérêt avec ces bots également. Donc c'est très intéressant. Je vais vous montrer peut-être quelques petits screenshots pour que vous ayez un petit aperçu. Donc là, on a notamment donc avec Microsoft Teams l'intégration directe donc du service de vidéoconférence qui existe déjà aujourd'hui, mais qui du coup va être adapté à un échange professionnel de santé et patient. On va avoir, hop, j'essaye de vous montrer d'autres captures. Ben là, c'est bien pixelisé, mais voilà, on va avoir du suivi de patients, du suivi après soin pour s'assurer que ça se passe bien avec des échanges. Voilà. Donc là, on a justement, comme je vous le disais, un Engage Patients pour pouvoir retrouver dans un espace sécurisé et centralisé les informations, les suivis, les rendez-vous, etc. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer là-dessus? Hop, peut-être. Ça, voilà. Et là, du coup, on a, par exemple, une demande de chat. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un patient ou un autre professionnel de santé pour la collaboration. Ça a l'air d'être plutôt un patient, puisque là, on est sur la fiche. Mais voilà, en tout cas, c'est très, très intéressant d'adapter la proposition business au secteur dans lequel il va être appliqué. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et il y a un vrai besoin, hein, le domaine de la santé, enfin, c'est pas nouveau. Et dans la plupart des pays, il y a un vrai besoin de moderniser la manière de travailler pour mieux soutenir les professionnels de santé et pouvoir leur libérer du temps pour mieux se dédier tout simplement aux patients et mieux nous prendre soin de nous, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Il y a des problèmes techniques. Bon, ben, j'espère que ça va quand même, que vous pouvez profiter. Si c'est juste la vidéo, on va pas s'en formaliser. Mais j'espère que le son fonctionne. Ok, le son 5 sur 5, mais Marion en stromboscopie. Bon, on s'en fout de Marion, c'est pas très très intéressant. Voilà, donc c'est bon pour la build. Alors, il y a eu évidemment plein d'autres news. Moi, j'ai fait le choix de vous parler de ça ce matin. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, il y a plein d'articles sur la build 2020 de Microsoft. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si évidemment vous avez envie d'en savoir plus. On continue avec le secteur de la santé, mais cette fois-ci, une initiative lancée par iFixit. Je fais une petite pause. Après, il faut que le corps médical et surtout les patients soient prêts à accepter ces outils. Franchement, YouTube perso, Je suis pas inquiète que les patients sont prêts à accepter ces outils. Franchement, les patients vont suivre ce que le professionnel de santé prescrit et recommande. Donc en fait, là, c'est plutôt le professionnel de santé qui va être prescripteur de ce type de service et qui va encourager les gens à adopter. On l'a vu notamment durant la crise du coronavirus avec l'application Covidom pour les personnes dont les professionnels de santé doivent monitorer les symptômes. Et ben voilà, moi j'ai même eu des collègues qui ont dû installer cette application et donc chaque jour marquer leur information, genre température, etc. et faire un petit formulaire pour montrer s'il y avait une évolution ou pas des symptômes. Et en fonction des informations recueillies, les professionnels de santé appelaient la personne pour s'assurer que tout allait bien, si les informations communiquées n'étaient pas aussi bonnes qu'ils l'avaient voulu. Donc voilà, vraiment, là, les professionnels de santé sont vraiment le cœur de cible ici pour convaincre que ces outils peuvent les aider au quotidien. Donc c'est plutôt se concentrer là-dessus et leur montrer en effet que ça peut simplifier leur travail. C'est un vrai défi. Parce que c'est toujours difficile de changer les habitudes et de changer d'outils, hein. Il y a une vraie transition qui n'est pas facile à gérer. Alors moi, je l'ai vu à mon petit niveau de designer quand on a changé l'outil qu'on utilise au quotidien pour travailler et concevoir chez ma société Alan. Et encore une fois, ça a été accepté par tout le monde, mais ça n'en reste pas, ça reste compliqué, ça reste une transition un peu douloureuse, même si ça se passe bien, le changement est douloureux, voilà, le changement n'est jamais simple. Maintenant, c'est là où il faut être vraiment, il faut savoir montrer la valeur justement aux professionnels de santé. Mais je ne suis pas trop inquiète côté patient là-dessus. Et en plus, il y a une vraie demande côté patient pour un meilleur suivi et un suivi plus soutenu et un meilleur contact avec les professionnels de santé. Il y a une notion de... On se sent un petit peu déconnecté de nos médecins et potentiellement médecins traitants, etc. Donc, il y a une vraie volonté. Et là, ça pourrait aider, justement. Mais on verra dans le futur. Enfin, c'est un sujet passionnant. On continue, mais cette fois-ci avec iFixit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le site, justement, que vous connaissez très bien, qui décortique les objets tech et vous aide à les réparer, ou en tout cas, vous donne des informations sur le niveau de réparabilité d'un objet, a annoncé, justement, qu'ils avaient mis à disposition une nouvelle base de données, mais à destination des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, pour aider à réparer le matériel de santé. Alors évidemment, l'initiative a démarré avec le contexte du coronavirus, en s'intéressant plutôt à un équipement comme des ventilateurs, des systèmes d'anesthésie, des analyseurs de respiration. Je vous fais de la traduction littérale, je m'excuse. parce que j'y connais rien dans le matériel médical. Mais voilà, ils ont vraiment commencé avec de la documentation de matériel médical qui pouvait vraiment être utile au contexte de la crise sanitaire pour aider les professionnels de santé à pouvoir réparer et utiliser le maximum de matériel à disposition pour traiter évidemment les patients. C'est une documentation qu'ils disent justement très très difficile à obtenir. Les hotlines, le support des fabricants était évidemment pas adapté au contexte à la crise sanitaire. Donc c'était un moment encore plus crucial pour pouvoir aider justement les professionnels de santé à pouvoir avoir un équipement qui fonctionne. Et en fait, ils ont eu un vrai engouement par rapport à cette initiative, avec des douzaines de collaborateurs qui se sont mis sur le projet et qui ont commencé à parler à différents types de professionnels de santé, que ce soit des techniciens du domaine biomédical, des médecins, des infirmières, etc., pour comprendre leurs besoins quotidiens et pouvoir prioriser un petit peu quel type de documentation il fallait qu'ils aillent chercher et mettre à disposition sur leur plateforme. Et donc voilà, maintenant vous avez une base de données directement disponible, c'est gratuit, sans publicité, et vous pouvez accéder à plein de documentation qui est catégorisée. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est assez simple. Enfin, simple, moi j'y connais rien, donc évidemment... ça me parle, enfin, c'est chinois, c'est du chinois pour moi, mais c'est pas vraiment important que moi j'y comprenne rien. Donc voilà, vous pouvez à la fois créer un tutoriel, donc là vous êtes invité à le faire, ou vous pouvez tout simplement consulter la documentation qui est disponible en anglais, hein, vous pouvez le voir, vous avez le petit EN, et vous pouvez naviguer dans les différentes catégories. Voilà, il y a 37 catégories juste pour l'équipement de chirurgie, de réparation chirurgicale, enfin voilà. Donc, vous comprenez. Et donc, vous allez à la fois. La notion de biopsie, etc. Enfin, voilà. Vous avez vraiment plein de types de matériel différents. Donc, voilà. Je voulais juste partager cette initiative que je trouve intéressante et assez maline de la part de iFixit. C'est intéressant de voir comment des sites internet et des business peuvent se challenger eux-mêmes et essayer de voir par rapport à leur cœur de business, est-ce qu'ils peuvent aider ou pas. Et je trouve que pour le coup, leur initiative est complètement alignée avec le cœur de business de iFixit. Donc j'ai trouvé ça assez malin et ça va permettre de centraliser un petit peu cette information. Et évidemment, de mettre en place potentiellement des partenariats avec les fabricants pour avoir toujours mis à jour, avec la dernière version, la bonne documentation à disposition pour les professionnels de santé. Voilà, je regarde un petit peu. Marion a parlé hier dans le rendez-vous tech de l'Apple Watch qui va essayer de détecter le coronavirus grâce aux algos. Ouh, alors attention Guillaume, attention, c'est une étude de Stanford qui est en train d'explorer la possibilité que l'Apple Watch puisse détecter le coronavirus. Mais c'est pas du tout fait. Il va leur falloir plusieurs mois et c'est une étude, hein, c'est une étude, on va dire exploratoire, hein, il n'y a rien de fait. Évidemment, si on peut à un moment donné définir une signature pour la maladie Covid-19, par exemple, ça permettrait potentiellement de détecter d'autres signatures de d'autres maladies. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment l'échelle. Mais ce n'est qu'à l'étape d'étude, il n'y a vraiment rien pour l'instant là-dessus. Mais c'est excitant, évidemment. Voilà. iFixit a même poussé certains constructeurs à rendre leurs produits plus facilement réparables. Oui, bah ça va tout à fait en effet avec leur cœur de business où en effet ils mettent une note sur la réparabilité du matériel, que ce soit tech et ici maintenant médical, peut-être dans le futur. Donc ça c'est assez intéressant. En tout cas, c'est bien parce que ça permettra de pouvoir garder plus longtemps le matériel. Voilà pour cette news. Je vous propose de continuer et cette fois-ci, on va aller enfin, on va partir dans une direction un peu plus mercantile. C'est pas négatif, hein, mais on va parler d'une nouvelle fonctionnalité pour Facebook qu'ils mettent à disposition et vous allez être étonnés. C'est une fonctionnalité qui est plutôt orienté e-commerce, enfin largement orienté e-commerce, puisqu'en fait, c'est vraiment alors. On avait à la fois des features, des fonctionnalités plutôt sociales qui sont sorties ou de vidéos, puisqu'il y a eu un vrai boom de ces échanges sociaux par vidéo avec le contexte de confinement, évidemment, que les différents pays ont mis en place. Mais il y avait également aussi un vrai effort du côté Instagram et Facebook pour développer des fonctionnalités e-commerce d'achat sur les différentes plateformes. Moi, je le vois avec juste Instagram. Plus ça va, plus quand je vais sur Instagram, je me retrouve à flâner sur des marques que j'aime bien, regarder leur catalogue, etc. Enfin, même moi, je me suis fait la remarque il y a une semaine où je fais, mais en fait, je regarde de moins en moins de photos, je fais de plus en plus pas de shopping parce que j'ai encore rien acheté via Instagram, mais j'ai acheté après. Pas énormément, hein, mais voilà. Donc comme quoi, c'est assez fou comment Instagram s'est vraiment positionné sur une plateforme pour vous aider à faire du shopping, à flâner, etc. en digital, quoi. Et donc du coup, là, Facebook continue de déployer ses fonctionnalités e-commerce et cette fois-ci met en place les Facebook Shops. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un petit peu la capture, comme ça vous aurez une idée de à quoi ça ressemble. Bon, je ne vais pas zoomer, mais en gros, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une mini page e-commerce, en fait, où vous pouvez avoir un catalogue, mettre en place un catalogue avec tous les produits que vous souhaitez mettre à disposition et vendre sur votre commerce. Et vous avez des fiches détails avec le prix, les avis, etc. Vous pouvez même les ajouter à votre panier ou acheter directement cet objet, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Facebook ne veut pas forcément remplacer le site de la marque. Donc, en fait, quand vous achetez, ça va la plupart du temps vous rediriger vers le site de la marque, voilà, du magasin. Par contre, s'ils utilisent la fonctionnalité de shopping d'Instagram qui vous permet d'acheter directement, bah là, vous pourrez aussi en profiter. Donc, ça, c'est, on sent vraiment que ça commence à s'imbriquer à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram, et qu'ils sont en train de faire un vrai effort e-commerce. Et c'est assez redoutable comme stratégie parce que Facebook a tellement de données sur les centres d'intérêt des utilisateurs. Là, j'ai eu une notification l'autre jour sur Facebook qui me disait: Ah, vous suivez telle marque sur Instagram, sachez qu'ils ont aussi une page Facebook. Et j'ai dit, mais fous-moi la paix. C'était un peu intrusif et ça montrait un petit peu en grosses lettres. Et tu sais quoi, on sait tout ce que tu fais sur Instagram et du coup on en profite pour te pousser sur Facebook. Mais je n'utilise pas Facebook. J'y vais pour poster le message pour le live de Le Mug. Mais à part ça, je l'utilise pas vraiment ce réseau social. Donc j'étais là, mais ah. J'ai pas trop aimé la notification. Donc voilà, en tout cas, c'est tout à fait légitime. Et dans le futur, ils envisagent même de rendre cet onglet, l'accès aux pages shopping encore plus visible dans l'application avec une section shop directement, dans les pages, directement accessible et potentiellement plus visible que l'onglet activité que vous pouvez voir dans Facebook. Donc ça sera intéressant à suivre, mais voilà, c'est assez redoutable la stratégie que Facebook est en train de mettre en place. Voilà. Depuis que je regarde Naotech, j'ai des pubs Peak Design partout. Je lis un petit peu vos commentaires. Ouais. Mon problème, c'est que Facebook, c'est trop le bordel. Mélanger famille, amis, news, commerce, alors qu'une fonction purement commerce comme Amazon, pourquoi pas? Je pense que là, pour le coup, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je suis d'accord sur le fait que Facebook, en essayant de faire tout, ça devient compliqué. Ça je suis complètement d'accord. Hein. Par définition. Et souvent, un service qui fait tout ne fait rien très bien. C'est un raccourci un peu facile. Mais bon, voilà, il n'est pas complètement faux. Maintenant, tu vois, pour Instagram, une grosse partie de faire du shopping, d'acheter, c'est de flâner et de faire son choix. Et en fait, le type de plateforme type Instagram, pour tout ce qui est... Voilà, vos centres d'intérêt, ce qui peut être, je sais pas moi, des campagnes Kickstarter, des fringues, des objets tech, etc. Bah voilà, si ce sont des centres d'intérêt que vous suivez déjà sur Instagram, et ben en fait, vous allez pouvoir vous retrouver à flâner et potentiellement acheter après, par la suite. Donc, c'est pas complètement éloigné. Après, Facebook, voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ça, je suis tout à fait d'accord. On continue et cette fois-ci, on va parler un petit peu sécurité. Sécurité avec des mises à jour pour Chrome, le navigateur de Google, que je suppose pas mal d'entre vous utilisent. Moi, j'essaie de l'utiliser un peu moins parce que j'ai de plus en plus de problèmes. Bah justement, ça fait partie notamment, Chrome fait mouliner mon ordinateur, donc j'essaye d'autres choses, d'autres stratégies pour un peu moins l'utiliser. Mais en tout cas, ils font des efforts côté sécurité et notamment vont mettre en place notamment une notion similaire à ce qu'a mis en place Firefox par défaut avec le, que je ne me trompe pas dans le nom, c'est le DOH, c'est le DNS over HTTPS. Vous allez me dire... What? Alors, peut-être pas parce qu'on a, on a beaucoup de fans de tech, évidemment, dans la chatroom, donc il y en a qui savent peut-être ce que ça veut dire. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, le DNS, déjà, il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Domain Name Server. Eh bien, en fait, il faut savoir que les sites et tout ce que vous consultez sont présents sur des serveurs. Les serveurs sont partout dans le monde. Il y en a plein. Et en fait, pour pouvoir savoir où aller, il y a évidemment des identifiants, des petits identifiants qui sont une suite de nombres, qui sont en fait des adresses IP. Et en fait, comme les adresses IP, c'est pas très user-friendly, c'est-à-dire que c'est pas facile de se souvenir que pour aller sur un site internet, il faut taper une adresse IP spécifique. On va avoir du coup des domaines... des noms de domaine et il va falloir faire le lien entre les adresses IP et les noms de domaine, évidemment, pour savoir à quoi ça correspond et où est-ce que je dois aller. Et donc, en fait, ça va être ça. Donc, ça va être le DNS. Et puis après, on va avoir le HTTPS qui est donc un échange de données sécurisées entre ce que l'utilisateur envoie et ce que le site envoie. Et donc, du coup, ici, le DNS over HTTPS, en fait, c'est la combinaison des deux systèmes de sécurité. Donc, en gros, vous allez avoir le principe de cryptographie du système de nom de domaine. Donc, on ne va pas savoir d'où vous venez, etc., qui vous êtes et ce que vous avez consulté au préalable. Voilà, ça va permettre de vous anonymiser un petit peu. Et du coup, la surveillance devient plus difficile. Et donc voilà, le DNS over HTTPS, donc ça vient compléter le HTTPS d'origine. Le premier cache le site web que vous visitez, le second protège les données que vous échangez avec lui. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, c'est une protection, en effet, c'est ce que tu dis exactement Laurent, c'est une protection d'adresse pour le DNS, hein. C'est une protection d'adresse, tout à fait. La leçon d'internet par Marion, sponsorisée par Naotech. Le tutoriel, j'essaie d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire tous ces termes sauvages, techniques, où personnellement, moi, il faut toujours que je me rappelle ce que ça veut dire pour comprendre les principes, donc j'en profite aussi pour le faire ici. En tout cas, l'article de Numérama est super clair là-dessus, je vous encourage à le lire, il est... Enfin, pas l'article d'origine, mais il lit vers un article sur justement la fonctionnalité implémentée par Firefox, et c'est vachement... Enfin, c'est très très clair. Donc, n'hésitez pas à le lire. Et donc, voilà. Donc, il y a à la fois cette fonctionnalité-là, hein, navigation sécurisée avancée. Ça sera une activation par défaut, donc ce DNS over HTTPS qui permet donc de mieux dissimuler votre navigation. On aura également une gestion simplifiée des cookies et leur synchronisation dans un onglet nommé Google et vous. Ça vous permettra juste de les gérer plus facilement. Ça vous permettra également de supprimer l'historique de navigation plus facilement parce que ça sera accessible de manière plus rapide et c'est quelque chose qui est fait de manière récurrente. Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent un peu plus en avant. Vous pourrez également bloquer les cookies tiers qui viennent d'autres sites que ceux que vous visitez ou carrément tous les cookies si vous passez en mode incognito, évidemment. Vous avez également le safety check qui est intégré à Chrome. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça va, c'est un outil qui va regarder les bases de données de fuite et va vérifier si vos identifiants se trouvent dessus et vous encourager à mettre à jour vos identifiants s'ils ont été piratés. Donc, ça c'est assez malin. Moi, je sais que j'utilise Jumbo. Je crois que c'est ça le nom. Mais je l'ai mis dans mes outils, donc évidemment. Oui, c'est ça, Jumbo. J'adore cette petite application. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ce que je vous montre. Mais voilà, c'est Jumbo. Et c'est donc un petit téléphone qui va s'occuper de votre sécurité et qui va vous avertir s'il y a des fuites, etc. Et quand il faut changer vos mots de passe. Il y a également les extensions qui vont être gérées maintenant dans un espace accessible en un clic. Ça va reprendre une petite icône qu'ils ont déjà avec une petite pièce de puzzle. Voilà, vous allez pouvoir directement y accéder. Donc, ces petits changements, ils vont arriver dans les prochaines semaines et vont permettre justement de vraiment passer une certaine étape en termes de sécurité pour Google Chrome. Donc, ça, c'est assez bienvenu. Voilà. Voilà pour les mesures de sécurité. Je lis un peu vos commentaires, mais ça a l'air d'aller. Voilà pour Google. Et on termine avec la dernière news tech de la journée. Je ne suis pas dans les temps, mais on va accélérer. Et donc, je voulais vous partager une petite histoire assez intéressante qui s'est déroulée dans l'État de Utah, aux États-Unis, qui ont justement déboursé des millions pour une soi-disant application de contact tracing qui s'appelle Healthy Together. Donc, ça vend du rêve. En bonne santé. Ce qui s'est passé, c'est l'État de Utah était devenu un des premiers États à démarrer une phase de réouverture dès le 1er mai, hein, donc très 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 tôt, avec le retour des restaurants, des commerces, des églises, etc. Et tout ça aidé évidemment par a priori, une application mobile qui allait permettre de traquer justement les personnes qui étaient infectées au Covid-19, à la maladie de Covid-19. Et voilà, et que Healthy Together, cette application, faisait vraiment partie de la stratégie de réouverture de l'État et de pouvoir vérifier la santé de chacun, que chacun reprenne voilà, la route vers un quotidien normal entre guillemets. Et donc ils ont dépensé 2,75 millions pour acheter de dollars hein, pour acheter l'application et ils payent une maintenance mensuelle de 300 000 dollars. Voilà, donc ça c'est chaud hein, mais en fait on se retrouve avec une application qui a fait beaucoup de promesses sans beaucoup délivrer. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'en fait, il y a déjà un problème d'adoption de l'application, puisqu'il y a uniquement 40 000 personnes qui ont téléchargé l'application sur 3,2 millions de personnes qui habitent dans l'État. Voilà. Il y a également le fait que, en fait, les fonctionnalités, il n'y a aucune fonctionnalité aujourd'hui pour traquer. Il y a juste un symptôme checker où vous pouvez vérifier vos symptômes. Et il y a également une carte qui recense les différents centres de test. Et encore, il ne recense pas tous les centres de test, puisqu'en fait, tous les centres de test qui vont tester et qui sont à destination de la population Navajo ne sont pas du tout recensés sur la carte, ce qui est un vrai, vrai problème. Donc voilà, on se retrouve avec une application qui est un peu une coquille, pas une coquille vide parce qu'il y a des fonctionnalités dedans, mais qui ne délivre pas la promesse qui était prévue pour laquelle l'État l'a acheté et l'État justement a dépensé beaucoup de l'argent du contribuable, du coup, pour pouvoir avoir une application qui n'est utilisée par personne, recommandée par personne, puisque les centres de test ne la recommandent pas, les professionnels de santé ne les recommande pas non plus. Donc, elle est passée relativement inaperçue. Et donc, on se retrouve aujourd'hui non plus sans un tableau de bord également pour les professionnels de santé pour vérifier. Parce que ça, c'était aussi la condition pour l'application. C'était d'avoir un tableau de bord accessible aux professionnels de santé pour pouvoir traquer les personnes infectées et prendre les mesures adéquates. Et ça, non plus, 4 semaines après la mise en place, pardon, de cette application, c'est toujours inaccessible alors qu'ils avaient promis que ce serait accessible sous 10 jours après le lancement de l'application. Donc voilà, gros échec pour l'État de Utah. Je pense que ce ne sera pas le seul et je pense qu'il y aura pas mal de pays qui vont avoir un flop avec cette application. On en a déjà parlé. Les applications de contact tracing ne sont pas faciles à mettre en place, surtout si on n'utilise pas que Google et Apple ont mis en place. Voilà. Donc voilà pour cette news. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais l'histoire est assez intéressante pour suivre un petit peu comment la naïveté... Je pense qu'il n'y a pas eu d'audit de fait. Et même la société qui a vendu ce service n'a pas l'air très très rassurante non plus. Donc on dirait plutôt un État qui a voulu absolument réouvrir et donner des garanties qui en fait étaient un écran de fumée. Un peu dommage. Voilà, c'est la fin des news. On va parler quand même de notre sponsor. J'allais dire regarder quelque chose, mais en fait, j'ai rien de Shadow. Mais vous le savez, notre sponsor, c'est Shadow PC, le PC dans le cloud, qui vous permet de profiter de la puissance déportée des serveurs pour avoir un PC performant et toujours à jour. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le tester chez vous en conditions réelles avec votre connexion Internet. Et pour ça, justement, on vous propose de gagner un mois de Shadow PC pour tester chez vous. Donc comment ça se passe? Eh bien tout, c'est très simple, il suffit de tweeter pourquoi vous souhaitez gagner un Shadow PC, hein, pour quel usage, et de partager deux hashtags dans ce tweet, un hashtag Shadow PC et un hashtag le mug Naotech. Comme ça on vous retrouve, c'est important d'avoir vraiment les deux, hein. Et on vous retrouve, il y a un tirage au sort chaque semaine et le gagnant est annoncé le vendredi. Voilà, donc vous serez contacté par message privé, on ne vous demandera rien, aucune information n'est à communiquer de votre part. Attention, si vous êtes contacté par le compte, le faux compte, le mug Naotech, ce n'est pas nous, et ne communiquez aucune information personnelle, c'est important. Voilà, vous avez un exemple de tweet justement dans la chatroom. Je vous propose de continuer avec la tartine. C'est la fin des news et j'avais quelques petites informations à vous partager en streaming. Donc on va les faire rapidement parce qu'il est déjà tard et je suis grave à la bourre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais vous partager, vous savez que les App Store ont mis en place des règles pour faire attention à la désinformation et aux applications qui auraient pu pulluler en désinformation sur le contexte du coronavirus. Et donc, ils ont mis en place un petit peu des vérifications automatiques pour éviter que n'importe quelle application, sans aucun droit ou sans aucune légitimité, fasse des recommandations plus ou moins fausses sur le coronavirus avec des traitement miracle, etc. Et ben du coup, là, malheureusement, Podcast Addict a été victime de ces règles automatiques sur le store de Google. L'application a été suspendue, banned pendant une certaine période. Alors évidemment, votre application préférée de podcast potentiellement s'est retrouvée éjectée et elle est de retour. Hein, heureusement, Google s'est expliqué, a expliqué qu'en effet, c'était l'application de règles automatiques. Alors pourquoi Podcast Addict a été éjecté? Tout simplement, Podcast Addict recense des centaines et des milliers de podcasts auxquels vous pouvez souscrire. Et certains podcasts, c'est du contenu sur lequel ils n'ont aucun contrôle, évidemment. Certains podcasts vont parler évidemment de la crise sanitaire. On a des podcasts qui sont à la fois sur la santé, à la fois sur de l'information, à la fois prenez le rendez-vous tech, on parle évidemment de la crise sanitaire et de comment ça impacte l'industrie tech. Et donc on en parle, quoi. On ne fait pas de recommandations, mais on en parle. Et donc du coup là-dessus, c'est sur ce type de règles automatiques que l'application s'est fait ban. Tout va pour le mieux, l'application est de retour. Voilà. Google a dit qu'il réautorisait Podcast Addict. Le VP de Google s'est excusé sur Twitter. Tout à fait, Guillaume. En effet. Donc, tout va bien. Elle est de retour, mais elle a eu chaud. Il y a eu d'autres news côté podcast, mais cette fois-ci, c'est une exclusivité négociée du côté de Spotify. Spotify, vous le savez, ça fait pas mal de temps qu'ils essayent de monter en gamme et d'améliorer leur offre de podcast sur la plateforme. Et en fait, on voit en effet qu'une vraie guerre de contenu est en train d'être mise en place avec des exclusivités, puisque il y a Joe Rogan... avec le podcast populaire que je ne connaissais absolument pas, The Joe Rogan Experience, qui va bouger de manière exclusive sur Spotify, dans quelques temps, C'est pas immédiatement, mais dans quelques temps. Et ça sera donc un accord de plusieurs années. Donc une exclusivité de plusieurs années sur la plateforme Spotify. Donc c'est assez intéressant de voir que Spotify n'hésite pas à aligner les dollars pour attirer des talents. Ça, c'est un peu comparable à la fois à la guerre de talents sur laquelle Twitch et le service de Microsoft, qui commence par un M, mais dont j'ai oublié le nom, Mixer, je crois que c'est Mixer, je suis pas sûre, mais on va dire que c'est ça, se faisait la guerre de talent en essayant de choper en exclusivité les créateurs, etc. Voilà, donc ou même les plateformes de streaming type Netflix, Apple, etc., qui vont négocier des exclusivités ou du contenu original. Merci, Grolm, de confirmer que c'était bien Mixer. J'ai eu un trou dans ma mémoire là sur le nom de la plateforme. Mais voilà, c'est assez intéressant ce type d'exclusivité. Donc évidemment, ça restera gratuit, ça sera le même show, hein, il garde le contrôle sur la création de son émission, c'est juste une distribution qui va être exclusivement sur Spotify. Voilà, donc vous pouvez évidemment profiter de Spotify gratuitement ou via l'abonnement. Donc voilà. Voilà pour la news et la dernière information streaming que je voulais vous partager ce matin, tout simplement, cette fois-ci, c'est du côté d'Apple TV. Vous savez qu'Apple TV s'est lancé uniquement avec du contenu original, ce qui rendait l'offre de catalogue assez mince. On en a déjà parlé lors du lancement. On avait, je crois, à peu près 6 shows, enfin 6 programmes qui étaient disponibles au lancement, ce qui était relativement limité, ce qui a fait que Apple a mis en place des stratégies de prix qui était relativement bas puisque c'était à 4,99 € par mois ou gratuit carrément si vous aviez acheté un appareil Apple. Donc là, c'était vraiment pour encourager l'adoption, sachant en effet que le catalogue, la profondeur de catalogue était relativement limitée. Et bien du coup, ils changent un petit peu de stratégie. Puisqu'ils vont, a priori, ils seraient en train de racheter les droits de diffusion de contenu, de films comme séries, qui appartiennent à d'autres producteurs. Donc on n'a aucun nom de programme pour l'instant qui a été communiqué, donc le suspense reste entier sur quel type de programme et quel type de... Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir qui vont arriver sur Apple TV, mais a priori, ça serait des films ou des séries très très connues. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a pu voir justement cette stratégie déjà chez Netflix qui va à la fois... se reposer sur une stratégie de contenu original qui va être binge-watché dès l'apparition sur la plateforme, type Stranger Things, qui a marché énormément. Et donc là, on a a priori une courbe de consommation très courte, avec un pic à la sortie et ça retombe très vite après parce que c'est très rapidement consommé, puisque vous savez que Netflix met à disposition tous les épisodes d'un coup, donc ça encourage le binge-watching. Mais à côté de ça, ils ont également dans leur catalogue d'autres séries qui sont des hits, des standards, des références dans le domaine de la série, comme The Office, qui vont être régulièrement regardées tout au long de l'année. Donc on voit en effet que The Office cartonne bien plus que Stranger Things sur le long terme, puisque The Office sera regardé en moyenne 45,8 milliards d'utilisateurs, comparé à Stranger Things qui sera... Non, attendez, excusez-moi, je vous dis, ça c'est des vues, je pense. Voilà, non, c'est des minutes regardées, excusez-moi, c'est des minutes regardées. Voilà, j'aurais dû regarder la légende avant. Donc 45,8 milliards de minutes regardées pour The Office tout au long de l'année. Donc on a vraiment quelque chose d'uniforme et de valable tout au long de l'année, tandis que Stranger Things va faire un hit ponctuel lors de la sortie. Donc c'est intéressant de mêler les deux types de contenu. Voilà. Donc on verra un petit peu dans les temps à venir. Qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté? C'est la fin de l'émission, il est 9h03, je vous propose de continuer rapidement avec un petit cornfac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je repose ma tasse. Vous voyez, je fais de la gym. C'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite une très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter et je vais rester quelques minutes rapide parce que j'ai pas mal de boulot pour répondre à vos questions s'il y a des questions tout simplement donc n'hésitez pas à me dire. C'est pas chez Amazon The Office, Valéa, c'est possible que les licences soient différentes en fonction des pays, que ça soit que The Office soit disponible sur Amazon en France ou en Belgique et que The Office soit disponible sur Netflix aux États-Unis. Ou à d'autres moments, parce que les programmes vont et viennent, et que peut-être que le graphe montrait à un autre moment, pas forcément cette année. Pas de questions Platinium, c'est noté, merci beaucoup pour l'info. Ah, pas de souci, le tutorien, je t'ai pas trollé, Marion, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que j'expliquais l'intérêt quand même d'expliquer certains termes techniques, mais il n'y a pas de souci. Bonne émission, merci Marion, ben merci à toi Nicolas. D'ailleurs, si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas un petit pouce up, ça coûte rien, mais ça nous aide beaucoup à ce que l'émission remonte et que des personnes potentiellement nous découvrent si la tech les intéresse. Un grand merci à vous. Et puis si vous pouvez, vous pouvez également nous soutenir financièrement via Tipeee. Aidez-nous, évidemment, ça permet de financer les personnes qui travaillent au quotidien pour la chaîne. Dashlane et Jumbo, c'est pareil, pas du tout Sultan. En fait, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe et plus, parce que gestionnaire de mots de passe, c'est une des fonctionnalités de Dashlane, c'est comparable à OnePassword. Mais Jumbo, en fait, c'est pas du tout un gestionnaire de mots de passe. Ça va juste t'inviter à connecter certains... je sais plus comment ça se passe, mais ça va connecter tes services principaux. Type Facebook, Google, etc. Et ça va scanner au quotidien les failles et t'informer de qu'est-ce que tu dois vérifier, qu'est-ce que tu dois pas vérifier, etc. Et en fait, c'est vachement bien fait en termes d'expérience. Moi, j'aime bien. L'interface est très, très chouette. C'est par les créateurs de l'application Sunrise. Vous souvenez l'application Sunrise de calendrier qui avait été rachetée par je sais plus qui. J'ai un trou. Comme d'habitude, je vous ai dit, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est catastrophique. Je ne sais plus si c'est Apple ou Microsoft. Je crois que c'est Microsoft. mais voilà, et du coup, l'expérience est top. Même si vous êtes juste curieux, allez-y, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment bien foutu. J'utilise LastPass. Oui, ben voilà, il y a différents gestionnaires de mots de passe. Shadow PC fonctionne à l'étranger. Ça fonctionne dans certains pays. Je ne suis pas capable de te dire tous les pays où c'est disponible. Je sais que c'est disponible en Angleterre, en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas capable de te faire la cartographie de disponibilité de Shadow dans le monde. Désolée. Mais tu peux aller sur le site internet, je suis sûre que tu vas trouver l'info. Dashlane aussi fait de la surveillance des failles pour les mots de passe. Bah, OnePassword aussi, hein, il te le dit aussi. Donc, c'est quelque chose de logique pour un gestionnaire de mots de passe, tout à fait. Mais c'était juste pour dire que Jumbo n'était pas un gestionnaire de mots de passe en lui-même. Un retour sur le reste de Upload. Oui, parce qu'en fait, on a binge-watché la série et on l'a terminée avec Jérôme. Alors, conclusion. C'est une série très facile à regarder parce que les épisodes sont courts, à part le premier épisode qui est donc le juste pour lancer, mettre en place l'univers, les personnages, etc. Il est long et d'ailleurs, ça fonctionne moins bien. Je trouve que c'est l'épisode qui fonctionne le moins bien de la série du fait de sa longueur. Mais la série est très, très facile à regarder. Finalement, les personnages les plus intéressants sont pas forcément les héros ou ceux qu'on attendait. Il y a des personnages secondaires qui paraissaient superficiels au début, mais qui ont des aspects intéressants ou une évolution intéressante. Le héros est pas très intéressant. Il reste pas très très intéressant. Je suis désolée là-dessus. Il y a des, mais ça reste un peu le cul entre deux chaises comme série. C'est-à-dire que c'est pas très marrant. C'est pas marrant. C'est pas une série humoristique. Mais il y a un côté satire de la tech qui reste léger, mais il y a quand même un côté dramatique et une intrigue amoureuse facile. Bref, c'est pas une série incroyable. Je l'ai regardée, pour moi je l'ai vraiment prise comme du divertissement. Si vous êtes fan de tech, en effet ça peut être sympa, mais ça va pas très très loin en termes de réflexion, ça pousse pas super loin, et c'est pas super marrant. Donc, mais encore une fois, c'est facile à regarder, c'est rapide, finalement il y a une intrigue qui vous fait tenir jusqu'au bout de la saison. Et voilà, mais c'est quelque chose que je pense que c'est une série que j'oublierai facilement à voir. Les effets spéciaux sont catastrophiques, mais en même temps c'est aussi le parti pris de la série. Mais bon, là quand même, enfin il y a des fois, voilà, c'est quand même pas mal. Et certains acteurs sont pas super bons. D'autres sont meilleurs, hein. Mais voilà, c'est assez inégal comme série. Je reste sur finalement ma première impression. Marion m'ignore. Désolée, hein, vous êtes beaucoup à poser des questions. Il y a aussi Have I Been Pound. Oui, on en a parlé plusieurs fois de ce site internet. Tout à fait, pour checker. Mais l'intérêt de Jumbo, c'est qu'en fait, il le fait pour vous. Ou des gestionnaires de mots de passe qui vont vérifier. C'est que vous n'avez pas besoin de vous rendre régulièrement, tous les mois, sur une plateforme. Il vous avertit quand il faut le faire. C'est ça qui est plus intéressant. Je lis un petit peu. J'ai dû rater un peu vos... Jumbo, c'est gratuit ou payant ? C'est gratuit. Je ne sais pas s'il y a une version payante, mais moi, j'utilise que la version gratuite. Alors, je regarde. Bonjour Apple, seule entreprise innovante, Google abandonne tous ses projets. Lily, je pense que non, c'est pas tout à fait ça. Apple va innover pour le grand public. C'est-à-dire qu'ils vont pas explorer des choses et sortir des choses qui sont pas peaufinées. Donc en fait, il y a une certaine maturité dans tout ce qu'ils vont sortir déjà. Donc ils vont pas prendre trop de risques. Je caricature un petit peu. Comparé à Google, qui va lancer plein d'initiatives, explorer plein de choses, jouer avec, voir les usages, et tester des domaines ou des services qui ne sont pas forcément matures et même pas du tout prêts pour le grand public, au risque de n'avoir aucune adoption. Et donc, ils vont le faire plus souvent et donc ça va donner un taux de drop de service, enfin d'abandon de service supérieur. Mais ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste deux stratégies différentes. Voilà. Après, on peut avoir des préférences personnelles, mais je pense que les deux aspects sont intéressants. Ils se poussent mutuellement. Oui, Upload, c'est sur Amazon Prime, tout à fait. Il est 9h10, c'est noté, Samuel, merci. Je regarde juste. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus... Oui, jour férié demain. merci, bah j'en profite. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé l'émission. Vous avez déjà profité de la compagnie de Guillaume hier, puisque de toute façon, demain, c'est un jour férié. Donc, j'espère que vous allez en profiter. Et pour ceux qui se font un week-end encore plus prolongé avec le vendredi, profitez-en bien. On vous retrouve vendredi pour ceux... qui travaillent ou ceux qui veulent regarder. On sera là vendredi en compagnie de Jérôme. Mais voilà, il n'y aura pas du coup de jeudi VIP, je suppose. Je laisse Jérôme le droit de me contredire. mais il n'y aura pas de jeudi VIP ou de mug demain matin. Profitez de votre jour férié et faites attention à vous. Très bonne journée à tous. Pas de Berthe non plus aujourd'hui. Ouh, drame. Et oui, réunion de famille ce soir, donc pas de Berthe... drame, tristesse, il y aura un vendredi VIP, voilà, pas de jeudi VIP, mais c'est décalé juste d'un jour. Jérôme prend bien soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, très bonne journée et à bientôt, bye bye. Bon, bah, pas de générique de fin, ça fonctionne pas, gros fail, excusez-moi, c'est le seul générique que j'avais pas testé, donc je suis désolée, je vais arrêter comme ça. Au revoir!